Regard des jeunes, l'émission faite par des jeunes, pour les jeunes. Alexiane, Théo et Max.
Bienvenue dans le Regard des jeunes.
Aujourd'hui, on va parler de musique avec l'interview des violons d'Amélie de Max.
Et également de sport et de société avec Mahmoud Bassoum, taekwondoïste de haut niveau et élu local à la jeunesse et sport. Tout de suite, l'interview musicale de Max.
Ils sont amiénois, tous passionnés par la musique et tous musiciens. Autour de moi est présent Arthur, le président, Pascal Mink, professeur à l'école de musique, et Lise, nouvelle adhérente à l'association. Je m'adresse d'abord à Arthur. Arthur, tu es le président de l'association. Est-ce que tu peux présenter un peu l'association ?
Alors nous, on est là pour représenter l'orchestre des violons d'Amis. Donc c'est un orchestre qui existe officiellement depuis 2008, qui est composé majoritairement de jeunes, voire très jeunes. Ça va de musiciens qui ont 10 ans jusqu'à 18 ans. On se produit sur des scènes locales. Bon, on joue beaucoup dans le Loiret, mais aussi dans le sud de la Seine-et-Marne. Alors on essaye de jouer des morceaux très divers. Pour plaire au plus grand public, en fait. Et sinon, en plus des concerts, il nous arrive de faire donc des interventions scolaires pour faire découvrir la musique aux plus jeunes. Mais aussi, on anime des banquets ou des festivals. Donc voilà. Donc l'orchestre des violons d'Amis, c'est une musique faite par des jeunes, mais qui s'adresse à un large public, en fait.
D'accord. Donc... On voit bien l'idée. Donc le projet, c'est une idée qui date du début des années 2000. Donc tu as parlé de l'année 2008, c'est le moment où l'association devient donc légale. Cette idée, elle est donnée suite au cours que Pascal Mink donne, donc professeur de musique à l'école de musique d'Amilly, donc la pailleterie. L'action se concrétise dans les années 2013, vous commencez à vous produire. D'où vient cette envie de créer cette association et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ?
L'élément déclencheur, ça a été premièrement les stages que j'ai réalisés en dehors du cadre de l'école de musique où j'ai accueilli mes élèves à Beaumont-du-Gâtinais. On a fait des stages et puis très rapidement, ça a donné lieu à beaucoup de musique. On a produit beaucoup de quatuors, de trios, d'ensembles, de petits ensembles. Et ensuite, on a dérivé tout naturellement vers l'orchestre. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait des morceaux qui étaient de bonne qualité, que ça plaisait au public qui était présent sur place, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus loin, de faire quelque chose d'un petit peu plus structuré. C'est là qu'on a commencé à penser à faire l'association pour pouvoir donner des concerts qu'on organise nous-mêmes et où on est les seuls à jouer pendant ce concert-là.
Donc cette envie venait du fait que vous regroupiez tous pour jouer de la musique, juste entre passionnés, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants, ils avaient vraiment envie d'être ensemble, donc ils étaient très demandeurs de ça. Et effectivement, ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à force de jouer ensemble, ils ont acquis un niveau qui était très satisfaisant. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage de les laisser comme ça dans un petit endroit. Il faut le faire voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, l'idée de se produire en concert est venue naturellement, quoi.
Sur votre site internet, donc les violons d'Amilly, on le rappelle, on peut rencontrer la rubrique objectif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de ces objectifs ?
Alors les objectifs, oui, il y en a plusieurs. Je crois que la priorité, c'est vraiment de mettre les enfants en valeur, parce qu'ils le méritent bien, ils ont beaucoup de talent. Un autre objectif, c'est de faire venir les personnes qui n'ont pas une habitude des concerts, de les faire sortir un petit peu de chez eux. Donc c'est pour ça, Arthur le disait tout à l'heure, mais c'est bien de le rappeler, on a un programme qui est vraiment éclectique, et parce qu'on a l'ambition de faire venir un petit peu les familles. C'est-à-dire qu'on a un programme qui va s'adresser aux enfants, aussi bien qu'aux parents, aux grands-parents, on a des tangos, on a des musiques de films, donc très récentes. Et vraiment, notre volonté, c'est de partager quelque chose, un moment de bien-être, on va dire, avec des gens de tous âges.
Vous avez un peu donné vos objectifs, je ne sais pas si ça en fait partie, mais en tout cas, vous semblez vouloir sortir un peu du cadre classique et expérimenter d'autres styles musicaux, donc d'autres styles que peut apporter la formation musicale traditionnelle. Est-ce que c'est un vrai engagement que d'explorer ces styles et d'aller à la rencontre d'autres choses ?
Un véritable engagement, c'est-à-dire que moi j'ai à cœur de faire plaisir aux enfants qui jouent dans l'orchestre, donc je pense qu'ils sont quand même un petit peu attirés par les musiques un peu plus modernes. Si je leur faisais faire que du classique, ils adorent la musique, ils le joueraient avec plaisir. Mais je pense que c'est un échange. Donc moi, j'aime beaucoup le classique. Je tiens à ce qu'il y ait un petit peu de classique parce que je veux aussi que le public puisse avoir un peu de musique classique dans nos concerts. Mais je sais bien que entre une pièce classique de Telemann et puis la musique d'Alice au Pays des Merveilles ou quelque chose comme ça d'Elfman, ils vont dégager beaucoup d'énergie sur les musiques qui leur plaisent le plus, quoi. Donc c'est important aussi sur scène que le public voit qu'ils se font plaisir et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc je pense à ça quand je fais les programmes, je pense à ça.
Le but, c'est d'être donc large au niveau autant des programmes que vous jouez, autant des envies de chacun. Pour parler, Arthur, t'en as parlé un petit peu de la diversité de votre orchestre. Votre orchestre comprend un grand et large ensemble de musiciens, autant à propos de leur âge, parce que tu as dit ça va de 8 à 18 ans, et autant à propos de leur niveau de jeu. Vous avez des participants avec des niveaux de jeu plus faibles que d'autres. Pourquoi est-ce que vous semblez accorder beaucoup d'importance à cette diversité? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous?
Comme vous l'avez dit, tout simplement, il y a différents pupitres selon le niveau. Effectivement, les plus jeunes, quand on les intègre à notre ensemble, on les fait débuter. Alors ça s'appelle les violons 2, donc c'est des parties un peu plus simples. Puis après, avec les années, ils gagnent en maturité, ils gagnent donc un meilleur niveau. Et donc on leur donne le droit de jouer donc des partitions de violon 1, où là ils jouent les thèmes, les mélodies. Donc c'est une sorte de reconnaissance pour leur travail.
Je peux ajouter aussi quelque chose, c'est que le principe de l'orchestre, là, des violons d'Amilly, c'est que les élèves sont tous issus de l'école de musique d'Amilly, à part trois éléments qui viennent de l'école de Soupe-sur-Loing. Donc c'est principalement les violonistes, les altistes sont tous mes élèves, et puis les violoncellistes sont les élèves d'Anne Lorpy, et les contrebassistes, les élèves de Camille Janin. Et forcément, on n'a pas non plus 300 musiciens sous la main, donc on va prendre les élèves qui ont le potentiel. Et donc en général, on commence avec les petits parce que ça leur met le pied à l'étrier, et puis c'est vraiment une grande source de motivation pour eux. Donc on n'hésite pas à faire venir les petits pour ça, justement. Ça les forme très rapidement et ils rentrent dans le moule très 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 vite, parce que justement il y a des grands qui sont comme des tuteurs, qui les forment entre guillemets, quoi, qui leur apprennent comment on se comporte dans un orchestre, comment on travaille, voilà. C'est un partage qui est valorisant pour tout le monde.
Comme Arthur l'a dit, bien qu'il y ait des niveaux différents, l'âge aussi différent qui joue sur la maturité, vous intégrez tout le monde à l'orchestre, il n'y a pas de différents groupes. Pour continuer, je vais m'adresser à Lise. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as rejoint l'association ?
J'ai rejoint l'association en 2014, j'avais 9 ans, c'était ma deuxième année d'alto.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as intégré les violons d'Amilly ?
J'ai intégré les violons d'Amilly parce que la musique, c'est une passion depuis toute petite. Je pense que c'est un bon moyen de jouer et j'aime bien jouer avec des gens de mon âge, avec beaucoup d'amitié et tout ça.
Je pense que ça te permet de progresser dans ton niveau de jeu ?
Ça me fait beaucoup progresser parce que ça m'apprend à écouter les autres, à me concentrer sur ce que je joue.
Pour finir, on pourra donner les quelques dates et les futurs projets des violons d'Amilly.
On a pour projet de s'exporter un peu en dehors de la France. Pour cela, on travaille en collaboration, surtout mon père, avec la ville d'Amilly, et notamment les jumelages, ce qui nous permet... Donc là, on a déjà un contrat officiel avec la ville jumelée allemande, c'est donc Norwald. Donc on va aller jouer là-bas en octobre. Sinon, il y a aussi des projets en Italie et en Espagne, et aussi en Grèce. Mais ça reste à concrétiser, bien sûr, mais voilà, c'est des projets qu'on a. Et en plus, on a encore là, en août, pour la deuxième année consécutive, donc on est invité à faire le festival en Ardèche de musique et culture en montagne.
Pour parler des différentes dates, je finis par m'adresser à Pascal.
Ça sera marqué sur le site lesviolonsdamilly.org. On a une date le 10 juin où on jouera à l'église de Triguères, et nous avons aussi une date, je crois, 2 semaines après, on joue à Malesherbes, du côté de Malesherbes. Et nous aurons également le 2 juillet, le dimanche 2 juillet, nous jouerons à la fête de l'Europe à Amilly à 19h sur la place de l'église.
Toutes les informations sont sur le site. On peut retrouver les dates de concert et les articles à propos de l'association. Merci beaucoup à vous. Merci à Lise, Arthur et Pascal. À bientôt.
On passe à l'interview sport avec Théo.
Aujourd'hui, je reçois Mamoudou Bassoum, taekwondoïste à un niveau national et international. Il a également un rôle de dirigeant au niveau local et régional de la Fédération de Taekwondo. Il a remporté le titre de champion régional et national vétéran cette année encore. Bonjour Mamoudou Bassoum.
Bonjour.
Quand a commencé votre intérêt pour le taekwondo, qui n'est pas forcément le premier art martial auquel on pense quand on pense justement à cette discipline?
L'intérêt a commencé au Sénégal lorsque je faisais de l'athlétisme, donc lors d'une séance de footing. J'ai vu un monsieur faire des coups de pied spectaculaires, je l'ai regardé, et je me suis renseigné en fait, et il s'entraînait juste à deux pas de chez moi.
Et donc effectivement, vous avez commencé par un sport totalement différent qu'est l'athlétisme.
Voilà, c'est ça.
Vous avez d'ailleurs donc créé en 2004, quand vous êtes arrivé sur Chalette, la section donc taekwondo de l'US Chalette. Vous êtes d'ailleurs son dirigeant et directeur technique. Est-ce important pour vous de faire connaître votre sport ici à Chalette, comme vous l'avez découvert au Sénégal?
Alors aujourd'hui, tout le monde connaît le taekwondo à Chalette. Donc à travers nos manifestations, on va dire, compétitives, et aussi à travers le volet social sur lequel le club travaille. Donc aujourd'hui... On n'a plus besoin de se faire connaître, les gens connaissent le taekwondo à Chalette.
Et surtout grâce à votre talent et vos nombreux titres.
Voilà, à l'ensemble du club en fait, il n'y a pas que moi, j'ai des champions de France au niveau du club. Donc aussi, mes médailles internationales aussi font parler le club aussi.
Vous avez donc un palmarès très fourni, régulièrement champion régional et de France, deux fois vice-champion de France universitaire, également membre de l'équipe nationale d'Haïti depuis 2009 et j'en passe. Que conseilleriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour embrasser une carrière telle que la vôtre?
Alors, aujourd'hui en fait, il y a beaucoup de disciplines, je parle de manière globale au niveau des arts martiaux, où je pense que les jeunes vont pouvoir trouver leur chemin et leur voie. Et en même temps, ça va leur permettre de s'épanouir, en fait, au niveau du sport. Donc, je conseillerais, au-delà même du taekwondo de Chalette, de pratiquer un art martial qui va leur apporter beaucoup.
Donc, vraiment une passion à la base pour un sport, et après, on peut envisager une telle carrière.
Voilà, facilement. En fait, c'est moins saturé que les autres sports, comme le foot, le basket ou le handball. Mais des sports individuels comme le taekwondo, le karaté ou le judo... Avec un travail, avec de la rigueur, on peut avoir des performances qui sont assez intéressantes.
Justement, quand on pense aux arts martiaux, on pense d'abord au judo et au karaté, qui sont d'ailleurs plus souvent mis en avant par les médias. Est-ce que vous trouvez que le taekwondo manque d'exposition médiatique, justement?
Ça, c'est un constat. Effectivement, on manque d'exposition médiatique. Donc, du coup, ce qui fait que nous, on essaye, au niveau local en tout cas, de demander aux médias de parler de nous, et effectivement ça se passe très bien, surtout l'éclaireur qui parle beaucoup du taekwondo à travers nos performances, les résultats.
C'est vrai, encore un article dans l'éclaireur d'aujourd'hui sur le taekwondo et le sport à Chalette. Donc vous avez déjà participé au championnat du monde 2009 au Danemark, 2011 en Corée du Sud, également au championnat de la francophonie. Ces moments ont sûrement tous été très particuliers, mais lequel avez-vous préféré en termes d'ambiance et de compétition?
Alors, elles se ressemblent toutes, les compétitions. Celle qui m'a plus frappé, je pense que c'est la première fois quand j'étais au championnat du monde en Danemark. C'était ma première, on va dire, compétition d'une telle envergure. Et ce qui m'a frappé, c'est que les gens sont sympas, on rigole. Après, on est sur le tapis, on travaille, on essaie de gagner, mais au-delà du tapis, ça reste quand même un sport où il y a du plaisir.
Donc une belle ambiance sportive, même au championnat du monde. Et du coup, avec toutes ces rencontres internationales auxquelles vous avez participé, il ne vous reste plus que les JO pour parfaire votre palmarès. Cette compétition prestigieuse fait-elle partie de vos objectifs futurs?
Non, parce qu'en fait, les JO, ça demande, on va dire, 3-4 ans de sacrifice. Et actuellement, ma vie familiale et ma vie professionnelle ne me permet pas de faire ce sacrifice-là.
C'est vrai que vos différentes responsabilités, aussi bien la vie de Chalette que dans la Fédération de Taekwondo, peuvent vous prendre énormément de temps. Donc au prochain JO de 2020 à Tokyo, le karaté sera pour la première fois discipline olympique, quand le taekwondo l'est depuis 2000 et les Jeux de Séoul. Je sais que vous êtes également professeur de karaté, et donc que pensez-vous de cette arrivée tardive, diront certains, de cet art martial au JO?
En fait, c'est lié à un problème de fédération au niveau mondial, au niveau du karaté. Donc il y a plusieurs pratiques et ils n'arrivaient pas à avoir quelque chose de commun pour justement défendre le karaté. C'est dommage pour les pratiquants, mais je pense que là, c'est parti, on est dans de bonnes voies, donc il faut que tous les arts martiaux sur quelle, n'importe quelle forme de pratique qui puisse avoir quand même les Jeux Olympiques, parce que c'est tous les 4 ans, c'est un moment magique, et que bah, chaque discipline, chaque art martial puisse être représenté, c'est quelque chose de très bien.
C'est vrai, en plus on a ce symbole justement de Tokyo, donc au Japon, qui est le pays d'origine du karaté. Vous allez, après votre titre de champion de France vétéran que vous avez eu donc à Bourges dernièrement, participer au championnat de France senior le 4 mars prochain à Paris, au stade Pierre de Coubertin. Vous l'avez dit vous-même, l'objectif c'est de monter sur le podium, la tâche va être dure, mais tout est possible. Alors pour cet objectif, accentuez-vous plus votre entraînement ou gardez-vous un entraînement classique?
Bah non, justement, parce qu'il faut, bah, si on veut une médaille, il faut faire plus d'entraînement. Donc là, le programme à partir, on va dire, de demain, ça va être un peu plus intensif au niveau cardio. Donc on va travailler le cardio parce que bah, un vétéran et un senior, c'est pas les mêmes capacités, on va dire, pour au niveau cardio. Donc là, je vais accentuer plus le travail au niveau cardio pour pouvoir être sur le podium.
Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, dernière question avant de passer à l'interview plus sociale et société. Donc, en tant qu'élu et sportif de haut niveau, que pensez-vous de la candidature de Paris pour les JO 2024?
Alors, c'est une très bonne chose. On va pouvoir vivre les Jeux Olympiques chez nous. Et c'est magnifique. Donc, j'espère que bah, ça fait plusieurs fois qu'on est dégoûté, on va dire, que ça passe à côté. Et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, quoi. Parce que... on en a besoin pour le sport en France.
Effectivement, pour remonter aussi le moral de tout le monde, et ça ferait plaisir effectivement à tout le monde. Eh bien, merci Mamoudou Bassoum. Pour ceux donc qui sont intéressés par le taekwondo, ça se passe à Chalette. Pour plus d'informations, contactez le 06 98 89 44 24 donc pour vous inscrire au taekwondo et pratiquer ce très beau sport. On passe tout de suite à l'interview société d'Alexiane.
Bah, bonjour Mamoudou Bassoum. Tout d'abord, bah, merci beaucoup de répondre à nos questions. Donc, vous avez abordé avec Théo votre côté sportif, mais vous êtes aussi élu à la mairie de Chalette au service des sports et de la jeunesse. Alors, pourquoi avez-vous décidé, en début de votre carrière politique et sociale, de vous présenter sur une liste électorale?
Alors, l'action, on va dire, au niveau du sport, en tant qu'entraîneur et dirigeant du club, on agit sur une population. Parce qu'au-delà de l'espoir, nous, on a l'espoir, ça peut aussi favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et moi, ce que j'ai vécu dans le taekwondo, par exemple, quand je suis allé au championnat du monde, on arrivait en Danemark. Certes, chacun représentait une nation, mais dans le vivre ensemble, il n'y avait pas cette barrière de nation. On parlait tous, on discutait, on ne se posait pas la question de s'il est blanc, noir, s'il est jaune, ou s'il est sénégalais, ou s'il est français. Il n'y avait pas de, différence. On était tous des êtres humains. Et donc, du coup, quand le maire, Franck de Momo, m'a demandé de venir faire participer au niveau de sa liste, c'était pour moi une opportunité de justement de participer dans le vivre ensemble à Chalette.
D'accord. Donc, depuis combien de temps êtes-vous élu?
Alors, depuis les élections municipales de 2014. Donc, je suis maire adjoint à l'enfance et à la jeunesse. Voilà.
D'accord. Aux assises de la ville, on a vu que le service de jeunesse et sport de la ville concentre 24% du budget de la ville. Donc, quels sont les principaux investissements réalisés ou en projet alors avec ce budget?
Alors, on a une grande partie du budget qui concerne, on va dire, le périscolaire, donc les activités périscolaires qui sont gratuites à Chalette. Sur d'autres communes, c'est payant. Donc, le fait d'avoir, on a 5 groupes scolaires, entre 7 et 10 animateurs tous les soirs, donc c'est assez conséquent. Aussi, on a nos centres de loisirs, on a tous nos équipements sportifs, on a pas mal de créneaux au niveau du sport, on a le CMJ, le service municipal de la jeunesse, qui a des activités régulières tous les après-midi, soit aide aux devoirs, soit des ateliers de musique ou des ateliers de danse. Donc l'ensemble de ces activités-là, effectivement, constituent un budget important, parce que pour nous, la mairie de Chalette, la jeunesse, c'est une priorité.
D'accord. Bah justement, dans le contexte des assises, avec les rencontres en marchant, on a pu avoir les réponses des Chalettois, donc, qui sont pour beaucoup concernés par la jeunesse et qui pour beaucoup demandent d'ailleurs, par exemple, une maison de jeunes par quartier ou un meilleur accès à l'emploi. Donc, Avez-vous d'ores et déjà pris certaines mesures pour répondre à ces nouvelles attentes ?
Effectivement, donc, dans la continuité des assises, cet après-midi à 16h, donc, on a une thématique qui est assez importante sur Vézines. Donc on va parler justement de la jeunesse et de l'emploi. Les choses qu'on a mises en place, effectivement, c'est au-delà du fait que la compétence formation et emploi ne relève pas de la mairie de Chalette, c'est plutôt une compétence régionale et nationale. Nous, on a mis en place, par exemple, la bourse d'aide au projet. C'est-à-dire un jeune qui vient, au niveau du point d'information de jeunesse de la Chalette, construire un projet avec l'animatrice du PIJ. Et ensuite, derrière, nous, on l'aide à soit passer son permis de conduire, soit à payer une formation, soit à l'aider pour un transport, parce que le transport, c'est problématique. Donc ça, l'objectif qu'on avait, c'était de 16 jeunes pour... septembre 2016 jusqu'à, on va dire, fin février 2017. Donc là, le projet, il va bientôt terminer et on a atteint plus que nos objectifs.
D'accord. Vous êtes élu donc, au service jeunesse et sport. Donc, pensez-vous que donc, la jeunesse et le sport sont deux termes indissociables ?
Alors, indissociables, oui, parce que l'épanouissement de quelqu'un passer à travers plusieurs choses. Donc ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être le loisir. Mais aujourd'hui, en fait, en tout cas moi personnellement, je trouve mon équilibre au niveau du sport. Donc après une journée chargée, aller me défouler avec le sport, c'est important. Et qu'aussi aujourd'hui, vu les valeurs, les dérives de la société, je pense qu'on a besoin de ces valeurs au niveau du sport pour permettre aux jeunes de vraiment de s'épanouir et de trouver leur place dans la société.
Un peu plus politique, là, maintenant. On a l'élection présidentielle qui approche. Alors, que pensez-vous des mesures envisagées par les différents candidats ? Et selon vous, lesquelles ont l'air les plus pertinentes ?
Alors, les mesures annoncées par les différents candidats. Donc, on va commencer par la mesure qui, tout le monde en a parlé, c'est le revenu universel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est, je dirais pas utopique, mais qui va être très difficile à réaliser. Et en même temps, ça participe pas à la justice sociale, parce que donner de l'argent à tout le monde, même celui qui gagne 1 million d'euros, lui donner 1 000 euros, c'est ridicule. C'est juste pas possible. Alors qu'il y a d'autres qui ont besoin, donc je pense que il faut plutôt réformer au niveau des aides sociales qu'on a et d'avoir plus de justice sociale que de prendre des mesures comme ça. Après, les autres candidats, le candidat Fillon, on a le scandale qui suit. Donc si on veut être politicien, je pense que comprendre les difficultés des Français et en même temps dire que moi je ne suis pas concerné, faire des choses qu'on exige de la population, par exemple l'austérité, et qu'on ne s'applique pas. Donc ça fait un peu de décalage. Et aussi, on a vu sur les fonctionnaires, il a une position très nette et claire. Donc moi, étant fonctionnaire, vous devinez ma réponse. Voilà, et au niveau de la sécurité sociale, on tend à la privatisation de la sécurité sociale, et ce qui fait la France aujourd'hui, malgré le déficit. Je pense que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui fait l'identité de la France. Et donc, si on privatise la sécurité sociale, on va casser notre identité. Après, il y a d'autres candidats qui on n'a pas encore vu le programme. Macron, donc, on n'a pas vu son programme. On ne sait pas de quoi il parle. Donc, ce serait bien à 2 mois des élections qu'on puisse savoir sur quoi il parle. Après, le candidat FN, moi, je ne ferai pas de commentaires parce que... La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Dès qu'on sort de ce cadre-là, je ne ferai pas de commentaires. Donc, voilà. Et après, il reste le candidat Mélenchon, qui a un programme assez intéressant et qui, à mon sens, de redonner le pouvoir au peuple, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Et tout son programme est basé sur ça et le côté écologique. Donc, c'est le seul candidat qui a vraiment un programme écologique. Et en même temps, un programme qui donne au pouvoir au peuple. Donc moi, je me serais plutôt pour le candidat Mélenchon.
D'accord, merci. En tant que maire adjoint aussi, qu'est-ce que vous faites au quotidien ?
Alors au quotidien, on va nos services, on donne des directives politiques et après les services, ils appliquent de manière concrète sur le terrain. Donc par exemple, quand on, quand on dit voilà, on veut plus de, on veut aider les jeunes à la formation et à l'emploi. Donc après, on donne ces directives et les services, bah, ils mettent en place, par exemple, bourse d'aide. Ils reçoivent les jeunes, ils les aident à construire leur projet. Ça, c'est des actions. Après, quand on veut que les jeunes aussi puissent s'épanouir à travers le sport, la culture, la musique, on donne les directives et le service jeunesse, par exemple, met des ateliers de danse et des ateliers de musique. Et après, lorsqu'ils font ces activités-là, bon, on vient voir aussi l'impact que ces activités-là ont sur la population.
Vous savez, il y a donc la mairie, donc du coup, il y a donc plusieurs secteurs, donc comme le sport et la jeunesse. Et donc, pensez-vous que la personne responsable de chacun de ces secteurs doit représenter en fait ce secteur, par exemple un jeune pour la jeunesse ou quelqu'un de sportif pour le
non,
sport?
Non, pas forcément, parce que nous on n'est pas des professionnels. On donne une vision politique et après les professionnels c'est les personnes qui sont sur les services, donc qui travaillent. Donc c'est plutôt d'avoir une vision politique, et pour avoir une vision politique au niveau du sport, on n'a pas forcément d'être sportif. Ou pour avoir une vision politique au niveau de la jeunesse, on n'est pas obligé d'être jeune. Donc il y a eu des politiques jeunesse qui sont faites avec des élus, des anciens élus. J'ai en mémoire Christian Birquet, qui n'était pas jeune, et qui a fait une politique jeunesse qui était très bien, et qui aujourd'hui fait partie de la municipalité, par exemple.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
C'était Le Regard des Jeunes. Merci de nous avoir suivis.
Rendez-vous le mois prochain sur C2L.